Bien, mesdames, messieurs, j'ai le très grand plaisir avec vous, qui êtes présents dans le salon de la librairie Mola, ainsi que ceux qui nous écoutent via le site de mola.com, de parcourir l'ouvrage de Jacques Rigaud, en présence de son auteur, « Quand les ombres s'allongent », et qui a pour un titre complémentaire « Petit traité de sagesse et d'impatience à l'usage des générations montantes ». Cet ouvrage n'est pas un livre de souvenirs. Jacques Rigaud n'est pas un homme à passer son temps à regarder en arrière par-dessus son épaule, mais bien plus enclin à porter son regard vers l'avant, projeter toute son énergie et ses capacités vers l'avenir, ce qu'il a toujours fait durant toute sa vie, basé sur sa sagesse et la sérénité. Cher Jacques Rigaud, la nostalgie bon marché n'est pas votre genre. Cet ouvrage, à mon sens, est une pause, une analyse des différents sujets qui fondent notre société, sans faiblesse, sans complaisance. Permettez-moi de vous rappeler que vous êtes énarque, vous fûtes conseiller d'État et tour à tour directeur de cabinet de Jacques Duhamel, ministre de l'Agriculture puis des Affaires culturelles. Et non déplaise à certains, certainement un de nos meilleurs ministres des Affaires culturelles. Par la suite, vous avez été sous-directeur général de l'UNESCO, puis chef d'entreprise, président-directeur général d'Edit Radio RTL. Et l'un de nos acteurs culturels traitant des lois sur le mécénat et différentes études touchant la culture. Jacques Rigaud, je vais vous demander pourquoi ce titre « Quand les ombres s'allongent ».
Toujours un problème, le titre d'un livre. Ou bien on écrit le livre et on cherche le titre à la fin, ou bien, et ça m'est arrivé plusieurs fois, on tourne autour d'une idée de livre et une expression vous vient à l'esprit et va jouer un rôle directif dans votre travail et dans votre inspiration. Et c'est le cas. J'avais écrit au moment où je m'approchais de mes 60 ans, je réfléchissais à ce qui est une étape généralement vécue de manière mélancolique, et je me suis surpris à constater que le passage à la décennie des 60 ans, loin de me décourager ou de m'attrister, me réjouissait plutôt. D'abord parce que je me trouvais moins bête qu'à 50 ans, et j'avais le sentiment d'avoir en tête et dans le cœur des quantités de projets. Et avant la moindre réflexion sur le plan, le contenu du livre, j'ai eu l'idée d'un titre, « Le bénéfice de l'âge ». Et il y a 2 ans à peu près, réfléchissant à un nouveau livre, sentant que, je ne sais pas ce que j'avais à dire, mais j'avais à nouveau le besoin d'écrire, le plaisir et la douleur d'écrire, je me disais que, approchant d'une autre étape, j'avais 78 ans à l'époque où j'allais les avoir, il serait peut-être honnête de se demander si l'on peut encore parler, à cet âge avancé, du bénéfice de l'âge. Alors, je n'allais pas écrire la suite du livre, mais je tournais autour de cette réflexion sur le temps. Et pendant les vacances de Noël, j'étais dans ma maison du Pilat, tout près d'ici, et je suis allé avec une de mes petites filles sur la plage d'Aïdza, pour ceux qui connaissent. Le soir tombait, le soleil baissait sur l'horizon, et à un moment donné, je me suis retourné et j'ai constaté que les deux ombres de ma petite fille de 6 ans et la mienne étaient presque égales. Je n'ai absolument pas tiré de conclusion de ça, mais cette image m'est restée dans l'esprit. Et lorsque, quelques jours plus tard, j'ai repris cette idée d'un nouveau livre, l'expression m'est venue comme ça, « Quand les ombres s'allongent ». La couverture, d'ailleurs, ne me représente pas, contrairement à ce que certains lecteurs ont pu croire. Je ne suis pas Bernard-Henri Lévy, je n'expose pas ma bobine sur les couvertures de mes livres, mais c'est l'éditeur Bernard de Fallois qui m'a proposé quelques photographies. Quand j'ai vu celle-là, elle a évoqué, bien que ce ne soit pas une ombre, mais un reflet sur le sable mouillé, elle a évoqué cette scène dont je parlais tout à l'heure. Alors c'est vrai que les ombres s'allongent, s'étendent sur ma vie, mais je suis justement à un âge où, dès lors qu'on aime la vie, qu'on l'aime encore, et plus que jamais, parce qu'elle est nécessairement brève, on a besoin d'un retour en arrière, mais non pas dans un esprit nostalgique, et je vais m'arrêter dans une minute, simplement, on a peut-être des choses à dire et à transmettre à ceux qui nous suivent. Et ce livre, je l'ai écrit comme un livre choral, parlant sans aucun titre à le faire, au nom de ma génération, comme quelqu'un de ma génération, pour rappeler d'où le monde d'où nous venons, le monde tel qu'il est, et comment nous, les aînés, nous voyons le monde qui vient. Voilà.
Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier chapitre, vous l'avez intitulé « Nos siècles ». Et vous abordez votre insertion dans l'histoire. Pourquoi nos siècles et pourquoi couvrir 3 siècles, pratiquement ?
Ben justement. D'abord, tous les chapitres ont un titre à la première personne du pluriel. Nos siècles, notre État, notre culture, nos descendants, nos amitiés, puisque, encore une fois, j'essaye d'exprimer son titre particulier, le point de vue de ma génération et non pas de mon histoire personnelle. Nos siècles. Je suis né en 1932. Je suis donc de cette génération ou de ces générations de l'entre-deux-guerres, ce qui est un mot sinistre quand on y réfléchit. Et c'est vrai que mon enfance, nos enfances, ont été bercées par les souvenirs de la Première Guerre mondiale. Mon père était à Verdun, a fait son service militaire de 1910 à 1913, a été libéré 6 mois et a fait toute la guerre, et n'a été libéré qu'au printemps 1919, donc sa décennie des 20 ans, il l'a vécu pratiquement sous les armes. Et toute notre enfance a été scandée par les bruits de bottes et le tonnerre de la guerre qui venait et qui est en effet venu. Donc je suis du XXe siècle. Mais nous voilà au terme de la première décennie du XXIe siècle, et je suis encore debout et bien vivant. Et mes petites filles, qui ont entre 3 et 10 ans, compte tenu de l'allongement de la vie humaine, ont des chances de connaître, très âgées, le 22e siècle. Quant au 19e siècle, mes parents et mes maîtres viennent tout droit du 19e siècle. J'ai connu mon arrière-grand-mère, qui est morte à plus de 90 ans en 1943. Elle m'a raconté la Commune de Paris, de 1870. Elle était née en 1856. Et tenez-vous bien, elle m'a raconté la retraite de Russie telle que la lui avait raconté son grand-père ou son arrière-grand-père. Donc le 19e siècle Et compte tenu de l'ensemble des références intellectuelles, politiques, juridiques, philosophiques, c'est aussi mon siècle. Donc voilà nos siècles.
Ce siècle, en fait, ce 19e siècle, est quand même la base de votre formation.
Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, je fais là une remarque qui vaut pour l'ensemble du livre. Certains d'entre vous sont peut-être assez proches, bien que plus jeunes, de ma génération. Nous sommes la dernière génération, nous, gens de l'entre-deux-guerres, qui auront été élevés dans la famille et dans l'école d'une manière très semblable à celle du 18e ou du 19e siècle. La plume sergent-major, le boulier, quand on commençait à apprendre à calculer, il y avait déjà la TSF, il n'y avait pas la télévision, il y avait évidemment la presse, les journaux, le théâtre. Donc nous avons été formés comme Victor Hugo l'a été, de la même manière, avec les mêmes instruments. Et la plupart d'entre nous sont à peu près à l'aise, moins que nos petits-enfants, dans les nouvelles technologies. Donc nous baignons à la fois dans le mode de formation et dans la culture des temps anciens, et nous sommes à peu près de plein pied dans le monde moderne. Passer une ou deux générations, ce ne sera plus le cas. On ne verra ça que dans les livres, que si on les lit encore.
Et comment vous abordez le 20e ? Vous dites que la situation est plus complexe.
Le 20e, il n'y a pas de quoi être fier. Ce 20e siècle aura incontestablement connu, sur beaucoup de plans, des progrès dans le domaine social, dans le domaine politique. La démocratie, quand même, aura fait de réels progrès au cours de ce siècle. Mais il a été marqué par deux guerres mondiales, par beaucoup de fanatisme, et plus encore maintenant au début du 21e, mais ces dictatures, le communisme, avec ses ravages, tout ça fait du XXe siècle un siècle peut-être moins fécond que n'ont pu l'être, en tout cas pour l'Europe, des siècles comme le XVIIIe ou le XIXe siècle. Alors nous pouvons le juger, mais nous ne pouvons pas le récuser. C'est notre siècle.
Et vous dites que c'est le siècle du mal.
Oui, alors le mal, j'entends le mal avec un grand M.
M majuscule.
On finit par l'oublier, par une espèce de pudeur ou de pensée correcte qui fait que le mal est quelque chose qui nous embarrasse et qu'on n'ose pas regarder de front, d'affronter. Or, le mal est en chacun de nous. Nous pouvons lutter contre le mal, l'étouffer, mais nous avons des pulsions qui vont dans le sens de la haine, de l'intolérance, du refus de l'autre, et sous sa forme la plus discrète, le refus par l'indifférence. Nous avons tous vu dans nos enfants, dans nos petits-enfants, dans les chers petits, dans ces visages de chérubins qui s'abandonnent à notre amour, à notre affection, nous avons vu des pulsions du mal, l'envie de faire du mal, physiquement ou moralement. Alors la plupart, bien sûr, ou résistent, ou c'est fugace et ça ne va pas très loin. Mais je prends délibérément cette image de l'enfance dans son innocence pour montrer que dans la nature humaine, même chez l'être le plus pur, le moins exposé aux tentations, le mal existe. Et il a pris à notre époque des dimensions tragiques au niveau mondial. Au milieu de toutes les catastrophes, de toutes les persécutions, il faut quand même reconnaître que la Shoah, en tant que telle, représente peut-être la plus cruelle des expressions du mal dans la nature humaine. Il y a eu d'autres massacres, il y a eu le goulag, il y a eu tout ce qu'on voudra, mais la volonté systématique d'exterminer une race par des procédés aussi scientifiques que possible, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, est unique dans l'histoire humaine. Et ne nous en sommes pas vraiment remis. Il y a eu, à la même époque, et de la part de ceux qui étaient soumis à cet enfer, des réactions humaines sublimes, de courage, d'abnégation, d'amour. Mais il n'empêche que sur la face de l'humanité, il y a cette grande ombre du mal absolu. Et sous des formes bien plus anodines, le mal existe et est inhérent à la nature humaine. C'est en tout cas ma conviction. Et il faut en être conscient, au moins.
Et vous terminez ce chapitre en disant que le défi aujourd'hui, c'est la survie de la planète.
Oui. Je n'en étais pas à ce point conscient quand j'ai commencé à écrire le livre. Je ne suis pas du tout un militant écologiste. Au contraire, même le discours de l'écologie m'assomme et m'agace souvent. Mais je suis obligé de constater que nous assistons à des phénomènes climatiques, notamment. Et nous savons maintenant, de science sûre, que un certain nombre de facteurs inhérents à l'activité humaine font peser sur la planète, de véritables risques. Alors on peut discuter, je sais que Claude Allègre et quelques esprits scientifiques fort expérimentés contestent certaines des prédictions qui sont faites. Je me garderai bien de trancher dans ces problèmes. Il n'empêche que dans la conscience contemporaine, alors qu'on a cru pendant très longtemps, et dans tous les domaines, au progrès, il y avait une espèce de credo du progrès, là nous nous rendons compte que les progrès même de notre organisation de vie, de notre industrie, les progrès même de la science, engendrent des conséquences qui font peser sur l'ensemble de la planète un risque peut-être pas mortel, mais incontournable. Et quand on voit la difficulté qu'il y a pour la communauté internationale à se concerter et a fortiori à adopter des décisions dans ce domaine, on ne peut pas échapper à une angoisse. Alors, pour les 10, 15 ou même pas 20 ans qui me restent à vivre, je pense que l'océan n'atteindra pas l'avenue Louis Gaume et que ma maison ne sera pas emportée par les flots. Mais quand je pense précisément à mes petites filles qui vont connaître, si tout va bien, ce siècle jusqu'à son terme, je ne garantis pas qu'il n'en ira de même. Et donc, de toutes les peurs qu'on a pu avoir ou qu'on a, celle-là, et je n'aime pas le mot de peur, mais c'est en tout cas un problème auquel nous ne pouvons pas échapper.
Nous allons passer ensuite à l'Europe, Alors vous dites, c'est charbon, acier, c'est par ce grand saut que nous sommes allés dans l'inconnu et qu'a commencé la construction européenne. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement la situation du moment ? Parce que souvent, les gens l'oublient.
Alors, je commence en effet par un témoignage. J'avais 18 ans lorsque, en mai 1950, Robert Schuman a proposé le pool charbon-acier, la mise en commun des ressources de charbon et d'acier de la France et de l'Allemagne et de tous les pays qui voulaient les rejoindre. Et j'ai eu... Nous étions 5 ans après la fin de la guerre mondiale. J'ai eu le pressentiment que l'heure de l'Europe avait sonné et que ma vie entière serait gouvernée par ou serait tissée par cette construction de l'Europe. Et ça a été le cas. Mais ce chapitre a un autre objet, et c'est précisément la démarche même que j'essaye d'avoir sur l'ensemble des sujets, c'est-à-dire être pleinement de mon temps, mais me situer dans la longue durée. Si vous parlez de l'Europe à nos contemporains actuellement, ils parleront de sa complexité, de ses insuffisances, pour ceux qui sont partisans de la construction européenne, de sa lenteur. Et moi, j'essaye d'avoir une vision, non pas optimiste et béate, mais une vision positive des choses. Et je dis que pour des gens de ma génération, de l'entre-deux-guerres, qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, qui savent que pendant au moins 3 siècles, la France et l'Allemagne se sont entretués, que nous vivions dans le cadre de nations. La construction européenne telle qu'elle est actuellement, et avec toutes ses insuffisances, ses imperfections, est un miracle de la condition humaine. Et des choses qui nous paraissent à nous, et a fortiori à nos enfants, nos petits-enfants, évidentes, l'euro... Le fait que un de mes petits-fils, qui était étudiant à l'école de management de Lyon, va passer une de ses années d'études à Copenhague ou à Munich et fera des stages dans des pays européens.
Ah, tout le monde demande de l'Erasmus maintenant.
C'est évident. Moi, je me souviens de mon premier voyage à l'étranger, je dis bien en Belgique, en Hollande, en 1950, avec les passeports, l'arrêt à la frontière. Et maintenant, on franchit les frontières sans s'en rendre compte. Nous avons connu une Europe barbelée. Et même si au XVIIIe siècle ou au XVIe, il y a eu une communauté des esprits européens, il n'était pas imaginable d'avoir de tels échanges. Et l'Europe ne se réduit pas à ses institutions, qui ne sont pas très attrayantes, je le reconnais, mais dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'économie, l'Europe existe. Le nombre d'entreprises qui ont une organisation européenne, ce n'est pas des délocalisations, c'est une vision européenne. Dans tous les domaines, l'Europe est une réalité. Et nous savons combien... y compris sur le plan local, ça rend la vie d'ailleurs très compliquée. Il y a les niveaux de compétences, la commune, le département, la région, l'État et la construction européenne. Moi, je suis, alors là, pour le coup, un militant de l'Europe, je crois à l'Europe. J'ai assisté, aux côtés de Jacques Duhamel, à des discussions interminables à Bruxelles sur le règlement financier, sur la politique agricole commune. C'est austère, c'est très ennuyeux, mais c'est comme ça qu'on a construit l'Europe. Et il y a encore, je le répète, beaucoup de progrès à faire. Et je parle de l'Europe vécue dans ce livre. Moi, ce qui m'a frappé, à l'époque où l'Europe était encore avec des frontières, c'est quand j'ai découvert à 18 ans Florence, Amsterdam et Bruxelles. Bien sûr, j'étais ailleurs, je n'étais pas chez moi. mais dans l'air, dans ce qui est indéfinissable, je me sentais quand même chez moi. Et mon petit-fils que j'ai emmené seul avec moi à Rome, à Londres, à Berlin, à Prague et dans d'autres villes, lui, ça lui paraît tout à fait naturel. Nous, c'était merveilleux. Et il faut rappeler ça.
Pourquoi on a raté le problème des racines chrétiennes de l'Europe ?
Oh, c'est un calcul purement électoral de M. Jospin et de M. Chirac. J'en veux également à l'un et à l'autre, qui, pour des raisons franco-françaises, franchouillardes, concernant notre conception unique au monde de la laïcité, qu'ils ont fait en sorte que dans les textes européens, c'était à Nice qu'ils ont commis ce forfait, on ne parle pas des racines cadettes. Comme si c'était, de la part de nos partenaires, une profession de foi religieuse. Il faut n'avoir aucune culture historique pour ne pas reconnaître que, comme les racines grecques et romaines, les racines chrétiennes sont une évidence pour le plus incroyant, pour le plus athée des Européens. Mais dans la politique française, c'est explosif. Et ça, je ne leur pardonne pas.
Le problème de la culture, c'est finalement... on a eu le sens inverse du côté des... Les chrétiens n'étaient pas d'accord non plus. Et en sens inverse, la réforme a tari aussi l'esprit d'invention des architectes et des peintres. Et qu'est-ce qui est remplacé ensuite ? C'était la musique.
Oui. Mais l'esprit européen... Bon, c'est vrai, vous faites allusion, il y a de la même manière qu'il y a les grands plissements géographiques, le plissement hercynien, le plissement alpin. Moi, ce qui m'émerveille dans l'Europe, c'est de voir le plissement baroque, le plissement gothique et le plissement roman parcourir toute l'Europe. Et une église romane ou gothique ou baroque au Portugal n'est pas la même qu'en Irlande ou en Suède, mais c'est le même courant. Et il y a eu, avec l'humanisme et dans le domaine de la philosophie, des courants qui étaient véritablement européens. Ensuite, il y a eu le domaine de la musique, et qui est par définition affranchi de la langue. Mais dans tous les domaines, il y a des sources communes à toute l'Europe.
Et vous dites d'ailleurs que la culture est vraiment le ciment de l'Europe, depuis ses origines.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est pas un hasard si la manifestation la plus tangible de l'unité européenne, c'est ces capitales européennes de la culture, précisément.
Et la France, au sein de l'Europe, elle se comporte comment ? Et vous la voyez comment ? Nous qui avons toujours quelque chose à ramener notre fraise.
Écoutez, la France est volontiers donneuse de leçons.
Ben, n'arrête pas.
Mais elle a une vocation particulière en Europe. Alors je le dis sans aucun chauvinisme, mais objectivement, nous sommes le seul pays d'Europe qui soit arrosé ou qui baigne dans la mer du Nord, dans l'Atlantique et dans la Méditerranée. Tous les pays d'Europe ont un nord et un sud. Mais nous sommes le seul pays d'Europe qui soit à la fois nordique et méditerranéen et atlantique. La France étant ce qu'elle est, ayant reçu les invasions de toutes sortes de, entre guillemets, barbares, qui ne pouvaient pas aller plus loin, parce qu'il y avait les Pyrénées et l'Atlantique, ils se sont mélangés chez nous et donnent à la France un côté extraordinairement composite en termes non pas raciaux, c'est une expression dangereuse, un adjectif dangereux, mais ethnique, en quelque sorte.
Vous dites que c'est un composé.
Plus composé, plus hétérogène que la France. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est le pouvoir politique et l'État qui ont créé la nation. La nation a été créée par l'État, par les rois de France, depuis Clovis ou Philippe le Bel, comme on voudra. Mais l'État a une importance en France qui n'a dans aucun autre pays, peut-être l'Angleterre à cause de la monarchie, mais l'État italien, l'État allemand datent de 2 siècles, l'État espagnol est plus ancien. Mais il y a une présence de l'État qui est très particulière à la France. Cela dit, la France a des quantités de défauts, vous les connaissez aussi bien que moi, mais il faut reconnaître qu'il y a une qualité de vie, un art de vivre à la française, qui, dans cette région d'Aquitaine particulièrement, je suis aquitain comme vous, voyez en Périgord, voyez dans à peu près dans toute notre région, le nombre d'Anglais, d'Hollandais, d'Allemands, qui ne sont pas simplement là pour se dorer au soleil en été, mais de plus en plus sont, comme je le suis moi-même, des résidents des 4 saisons, avec le télétravail, c'est très facile. Et je connais moins de Français qui feraient la même chose, même en Bavière.
Enfin, politiquement, vous y allez quand même pas de main morte, hein, concernant le traité constitutionnel qui avait été renvoyé. D'ailleurs, je vous l'ai dit dès le départ, c'est un livre à la fois de réflexion, mais sans complaisance. C'est à dire de lâcheté dans cet échec. Je ne suis pas sûr que la nouvelle génération de responsables politiques, tous obsédés par le court terme, les sondages et les effets d'annonce, soit capable de faire preuve de la hauteur de vue, de l'audace stratégique que réclame plus que jamais la construction européenne. Bah, dis donc.
Et c'est alors que... Bah, écoutez, j'ai tout dit.
Comment vous avez tout dit? Mais dites-nous en plus. Vous trouvez que nos hommes politiques sont pas très courageux?
Je crois surtout que la génération actuelle des dirigeants politiques est composée de gens qui ont beaucoup moins le sens du long terme que celui que pouvait avoir non seulement le général de Gaulle ou Robert Schuman, mais Georges Pompidou ou quelqu'un que vous avez bien connu, qui était Raymond Barre. Ça ne signifie pas qu'ils ne s'intéressent pas à l'Europe, et je dois dire que lorsqu'il a présidé pendant 6 mois l'Europe, Nicolas Sarkozy a eu des initiatives heureuses. Mais je dirais que d'une façon générale, vous savez ici ce que sont les millésimes, et les millésimes ne s'égalent pas tous. La génération actuelle des dirigeants politiques, celle de Merkel, celle de Berlusconi, de Zapatero, les Anglais, on ne peut pas encore les juger, de Sarkozy, n'est pas au plus haut niveau de la vision et de la volonté politique. C'est comme ça. Et donc, la France joue son rôle dans la communauté européenne, dans l'Union européenne. L'Allemagne, à certains égards, avec sa culture de compromis, est peut-être plus en avance que nous, mais je ne vois en effet pas de vision, mais peut-être l'époque n'est-elle pas à une grande vision, mais à la gestion laborieuse de la construction telle qu'elle est.
Alors ça vous fait dire quand même que, raison de plus pour tabler sur l'Europe des citoyens, et non pour se substituer à l'Europe des États.
Oui, parce que on finit, et les médias jouent un certain rôle, quand ils parlent de l'Europe, ils parlent de ce sommet qui n'a pas abouti, de ces directives qui font grincer les dents. On oublie que l'Europe n'est pas simplement, et je l'ai dit tout à l'heure, une institution, mais c'est une réalité vivante. dans beaucoup de professions, on est à l'heure européenne. Même dans le domaine religieux, il y a une vision européenne. Dans le domaine culturel, c'est encore plus vrai. Pour Denis Mola et pour beaucoup d'éditeurs et de libraires, la foire de Francfort est le grand rendez-vous européen du livre. Le Festival de Cannes, je suis administrateur du Festival de Cannes pour le cinéma, c'est pas seulement européen, mais c'est l'Europe qui reçoit. Et c'est pas la France franchouillarde qui reçoit le cinéma mondial. C'est l'Europe. Dans quantité de domaines, l'Europe, des réalités existent. On ne peut plus concevoir maintenant un réseau d'autoroutes ou un TGV sans une vision européenne. Ça ne s'arrête pas aux frontières. Et quand ça s'arrête aux frontières, c'est justement un échec. Actuellement, il est frappant, je lisais dans le journal ce matin, que le maire de Nice s'intéresse beaucoup plus à la liaison à grande vitesse en direction de Gênes et de Milan, qui va se faire plutôt qu'à la liaison avec Marseille, qui certes est importante pour lui, mais il y a pratiquement renoncé, ou il s'y intéresse mieux, parce que ce sera en 2026. C'est typique.
Et alors, dans ce chapitre de notre Europe, là, vous faites un sort et vous liquidez le mythe de la fameuse phrase de Jean Monnet, si c'était à refaire, je commencerais par la culture. Et vous dites, ça n'a vraisemblablement pas existé.
Alors,
qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
D'abord, beaucoup pensent que c'est une phrase apocryphe, mais si je la prends au pied de la lettre, je dis heureusement qu'il n'a pas commencé par la culture. Ça a été génial, au contraire, de commencer par des choses aussi concrètes et aussi proches des industries de guerre que le charbon et l'acier. Il y a eu aussi l'Euratome dont on ne parle plus, mais le charbon et l'acier, c'était symbolique de l'industrie. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'on parle de moins en moins d'industrie. On néglige l'industrie alors qu'elle est encore un aspect fondamental de l'économie. Donc on a commencé par ce qu'il y avait de plus concret. Et c'est très bien ainsi. Et tout le reste a suivi. Mais encore une fois, c'est particulièrement vrai pour l'Europe, nous sommes dans le monde de la complexité. C'est ce qui me rend quand même assez indulgent vis-à-vis du personnel politique, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de gérer un pays moderne que c'était le cas du Royaume de France il y a 3 siècles. Alors, ce qui compliquait la vie des rois, c'est la difficulté de transmission, de communication. Mais le gouvernement d'un pays, d'une nation, était beaucoup plus simple. Tandis que maintenant, les instruments de mesure et les instruments d'action sont extraordinairement compliqués. Et d'ailleurs, on le voit bien avec la crise économique actuelle. On est sorti de la crise de 1929, qui était sans doute encore plus grave, par des mesures comme celle du New Deal de Roosevelt, qui consistait à faire de grands travaux. Et tout repartait. Maintenant, on est obligé de jouer sur les taux d'intérêt, qu'on ne peut d'ailleurs pas bouger, sur toute une série de techniques très subtiles, mais qui rendent le gouvernement extraordinairement complexe. C'est cette complexité croissante, y compris dans l'organisation de nos vies, qu'il faut affronter.
Oui, avec des hauts et des bas, d'ailleurs. Barre me disait, avec des crises, il y aura des crises, mais l'Europe avancera quand même.
Bien sûr.
On va passer à la France, où vous posez la question, suis-je patriote ?
Oui, en abordant...
Les bras m'en ont tombé, mais enfin, écoutez...
Non, mais en abordant ce chapitre sur la France, je ne me suis même pas posé la question de savoir si j'aimais mon pays. Je l'aime à la folie, même s'il m'agace. Mais j'ai, notamment avec mon séjour à l'UNESCO, parcouru le monde. Je n'ai pas vécu à proprement parler à l'étranger. J'adore les voyages. Il y a beaucoup de pays que j'aime énormément, auxquels je suis très attaché, mais je ne me vois pas vivre et mourir ailleurs qu'en France. Et je me suis dit, mais alors, est-ce que je suis patriote ? C'est le mot de patriote qui m'a... parce que c'est un mot qu'on n'emploie plus.
Non.
On n'ose plus parler de patriotisme.
C'est 14-18.
Et tout ce qui fait mon attachement à la France, à la diversité de ses paysages, à l'air qu'on y respire, à la langue, à la diversité de ce pays, ça s'appelait en d'autres temps le patriotisme. Et le patriotisme avait quelque chose qui reste pour moi assez suspect, c'est qu'on était patriote contre d'autres pays. Le patriotisme était une manière de s'armer contre l'Allemagne ou de se méfier de l'Angleterre. Alors que maintenant, tout en connaissant les qualités et les défauts des Italiens, des Espagnols, des Anglais et évidemment des Belges, nous sommes beaucoup plus sereins vis-à-vis des, et fraternels vis-à-vis des autres pays. Ce qui fait que le mot de patriotisme a perdu un peu de son, de sa validité, mais j'aime d'amour la France et encore une fois, sa diversité. Et je dois dire, et là encore c'est un témoignage de ma génération, lorsque, et j'ai la chance de voyager beaucoup à travers la France pour différentes raisons, la France a embelli, certes, les zones d'activité aux abords des villes qui, de Dunkerque à Perpignan, sont exactement les mêmes. Et c'est décourageant. Ça, c'est pas très beau. Les banlieues pavillonnaires, pas davantage. Mais prenez le centre des villes. Que ce soit la petite ville, la Bastide de Montflanquin, ou une ville de Savoie ou d'Auvergne, ou les grandes villes, la restauration des centres-villes, les secteurs sauvegardés, la restauration des monuments, ce qui s'y passe, l'activité, les zones piétonnes. Bon, votre ville a été transfigurée, la pratique depuis mon enfance, ce qui a été fait ces dernières années, avec et pas seulement avec le tramway, mais à partir du tramway, a littéralement transformé Bordeaux. La vue de la rive droite, de la façade de Bordeaux sur la rivière, est quelque chose d'absolument unique. La manière dont on a dégagé les quais, etc. La France a embelli.
Mais vous dites que sur ce plan, France a été la pionnière dans l'utilisation des lieux.
Absolument. Enfin, disons que là, c'est sur le plan patrimonial. Nous avons un esprit d'ingénieur ou d'ingénierie culturelle qui fait que nous avons su réhabiliter un certain nombre de bâtiments devenu hors d'usage, et pas simplement l'entrepôt l'aîné ou l'abattoir de Toulouse, mais bien d'autres lieux, l'arsenal de Metz, la vieille charité de Marseille, toute une série de lieux qui ont été réhabilités par une utilisation culturelle. À Sarlat, par exemple, ce qui était la gendarmerie est devenu, je ne sais plus quoi, mais enfin, c'est devenu un lieu de culture. Et donc, nous avons là, dans ce domaine, un esprit d'invention qui a été copié par de nombreux pays étrangers.
Vous dites que la nation ne vieillit pas.
Non, la nation ne vieillit pas, parce que, enfin, c'est même, à mes yeux, une évidence. La nation, c'est un ensemble humain. Et sa mémoire, je ne dis pas s'alourdit, mais s'enrichit de tout ce qu'elle a vécu. Mais la nation, par définition, rajeunie, elle dépend largement des jeunes. Simplement, ce qui a vieilli, c'est le concept de nation, qui était l'alpha et l'oméga de la vision qu'on pouvait se faire de son insertion dans le monde. Maintenant, un jeune de 15 ou 18 ans, ou de 25 ans, si on lui demande de se définir, il ne se définira pas uniquement par la qualité de Français, mais éventuellement d'Européen, ou à d'autres titres, sur le plan religieux, ou de ses goûts, etc. La nation n'est pas le seul élément d'identification des personnes ou des groupes, mais il garde sa validité.
Vous êtes vous soulignez quand même qu'il y a aussi l'entrée des femmes dans la vie de
alors,
ce pays.
Ça c'est un phénomène très important. Je vais remettre dans 15 jours à une de mes amies la rosette du mérite. Elle m'a précisé que ça se ferait uniquement avec ses enfants et petits-enfants. C'est une femme à peu près de ma génération. Et je ne vais pas du tout faire le discours, et Dieu sait que j'en ai remis des décorations, cette situation ridicule où vous dites à celui qui reçoit la... Vous êtes né, monsieur, le temps, vous avez fait vos études, ce qu'il sait évidemment par cœur, alors on lui fait des tas de compliments, et dans sa réponse, comme il n'est pas sûr qu'on lui aura fait assez de compliments, il se complimentera lui-même. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Là, je vais parler à ses petits-enfants. Cette dame était la femme d'un de mes collègues du Conseil d'État. Elle a un peu plus de 70 ans. Et elle est typique de sa génération. Elle est d'un milieu bourgeois. Elle n'a pas fait d'études. Elle était tout à fait intelligente. Elle aurait pu faire des études. Elle n'a pas fait une licence. Elle n'avait aucune idée de carrière professionnelle. Elle a élevé ses enfants, elle a eu 3 enfants, dont un est mort. Quand elle, après les premières années, comme elle était intelligente, active, dynamique, qu'elle avait des amis dans le monde culturel, elle a demandé si on pouvait la faire travailler. Je lui ai demandé de venir m'aider pour les centres culturels de rencontre. Elle a été secrétaire générale de l'association des centres culturels de rencontre pendant d'assez longues années. Ensuite, dans le domaine du mécénat, je l'ai employé aussi, à titre d'ailleurs bénévole. On lui payait ses frais de voyage ou de séjour quelque part. Et beaucoup de femmes, ma propre épouse, étaient dans cette situation où elles travaillaient avant d'avoir des enfants. Et quand les enfants étaient assez grands, elles reprenaient un travail. La situation a complètement changé. Moi, dans mon enfance, beaucoup de femmes travaillaient. Mais elles étaient vendeuses, secrétaires.
Dans les milieux modestes, on travaillait.
On travaillait, mais dans les milieux bourgeois, on ne travaillait pas. Tandis que maintenant, il est frappant que dans les écoles de gestion, HEC, il y a une majorité de femmes. Et on en vient maintenant, je l'avais prévu, à se demander s'il ne faut pas instituer des quotas inversés pour assurer quand même une présence masculine. Bon, on en est là, c'est très bien ainsi, mais c'est un changement de société considérable que le fait que la jeune fille ou jeune femme d'aujourd'hui considère qu'elle a autant de titres que les hommes à faire l'université ou les grandes écoles. Moi, je me souviens, quand le général de Gaulle est venu au Conseil d'État...
Ah oui, racontez-nous ça, je ne lasse pas.
Au début de son premier septennat, il avait décidé de rendre visite au grand corps de l'État. Alors, on s'est renseigné pour savoir quel était le protocole devenu. Et le protocole, comme les chefs d'État ne passaient pas leur temps au Conseil d'État, remontait à Louis-Philippe. Alors le roi est reçu par l'Assemblée générale et il entend la harangue du vice-président et ensuite il rend visite à chacune des sections du Conseil d'État réunies en formation de travail. Alors pour la section du contentieux à laquelle j'appartenais, c'était compliqué parce qu'on n'a pas d'endroit où toute la section se réunit, contrairement aux sections administratives. On nous avait parqué dans le vestibule du contentieux. Le général est arrivé, a demandé au président de la section de lui présenter ses collègues. Il ne connaissait pas trop nos noms, donc il disait au hasard des noms. Et on a vu le regard du général s'allumer quand il a constaté qu'il y avait des femmes parmi nous. Pas beaucoup, il y en avait deux ou trois à l'époque. Et il a reculé d'un pas, a marché sur les pieds de Michel Debré, et il nous a dit, mesdames, messieurs, je tiens à vous dire combien j'ai été heureux de m'entretenir quelques instants, hélas, trop bref, avec vous. Je vous fais tous mes compliments et tous mes encouragements pour la poursuite de votre mission, si essentielle à l'État, tel qu'il est et tel qu'il doit être. Et puis, je vous dirais, me plaisir que j'ai à constater l'importance de l'élément jeune parmi vous. Il marque un temps et dit, c'est le cas de le dire, ciel, quel nombreux essaim d'innocente beauté s'offre à mes yeux en foule et sort de tous côtés. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Et quelqu'un a dit derrière moi, Esther, acte 1, scène 3. Ça, c'est comme ça que parlaient les présidents à l'époque.
C'est une histoire dont je ne me lasse pas. Bien. Mon Dieu, il va falloir gagner du temps.
Hein.
Oui, oui. Vous nous entretenez en plus toujours sur le chapitre Notre France. L'échec de l'intégration, quand même.
Ben, il est de plus en plus douloureux. On le remarque de plus en plus. Et une époque où il ne posait aucun problème. Parce que, pour dire les choses comme elles sont, le Maghrébin qui venait en France, qui s'y installait, n'avait qu'une envie, c'est de s'intégrer. Comme les Polonais qui sont venus après la guerre de 14, les Italiens ou les Espagnols qui sont venus par ici ou en Languedoc-Roussillon après la guerre, ils n'avaient qu'une envie, c'est de s'intégrer complètement. Et s'ils ont gardé leur nom à consonance étrangère, il n'avait qu'une envie, c'est de s'intégrer. Et il en allait de même pour les gens d'Algérie ou de Maroc ou de Tunisie. Maintenant, il y a quand même un esprit communautaire qui, en soit, qu'on veuille rester fidèle à sa communauté d'origine, comme nous sommes chacun à notre manière fidèles à nos racines, c'est tout à fait compréhensible. Mais le modèle français n'est pas un modèle de conglomérat de communautés. C'est plus compatible peut-être avec l'esprit anglais, qui en plus a une conception assez aristocratique de l'anglicité, mais ce n'est pas du tout la mentalité française. La Révolution française, les droits de l'homme avaient cette vocation, sinon d'uniformité, du moins de ne pas reconnaître les différences dont précisément l'Ancien Régime avait souffert. Et ce n'est pas un hasard si on avait, à un moment donné, c'est discuté maintenant, interdit de parler patois à l'école. Parce que la langue française était un des éléments, un des ciments de l'unité nationale. Alors maintenant que le breton ou le basque ou le provençal retrouve une certaine légitimité, c'est tout à fait compréhensible, mais ça ne doit en aucun cas remettre en cause le caractère d'étalon-or de la langue française pour l'ensemble.
Sur les... Alors, je vous en passe, hein, ça balance. Hein. La France comptait, comme dirait Rochefort, comptait 40 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Et blanc. Donc je trouve quand même vous y allez. Et les Français, ils sont de terribles conservateurs et imperméables au changement.
Écoutez, quand je vois combien la moindre annonce de réforme suscite des torrents de protestations, je me dis, faut-il que les Français soient heureux ? Puisque chaque fois qu'on veut modifier la date des vacances scolaires, ou des examens, ou les heures de travail, ce sont des torrents de protestations. La vérité, c'est que notre tempérament est en effet très conservateur, peut-être parce que nous sommes effectivement heureux d'être dans ce pays et pas mécontents de la manière dont globalement il est géré, mais que de temps en temps, on se fait peur et on se paye un drame, une révolution, un coup de force, ou c'est comme ça.
Et vous dites d'ailleurs que vous ne pouvez quand même pas vous défaire d'un certain désenchantement et d'une réelle inquiétude au sujet de cette France aimée.
Oui, parce que, à la limite, nous sommes trop gâtés. Et devant les défis du monde moderne, nous le laissons peut-être un petit peu aller et ça peut avoir des conséquences assez graves. Mmh.
Puis ensuite, nous avons un chapitre que vous intitulez « Nos peurs ». Et vous dites d'ailleurs, à l'époque, les Gaulois avaient peur que le ciel nous tombe sur la tête. Alors vous avez la peur de l'autre, la peur économique, la peur écologique.
Oui, j'en ai déjà parlé. Il y a une autre peur dont je parle à titre rétrospectif, parce qu'elle nous a, ma génération et quelques autres, beaucoup marqué, et nous l'avons complètement oublié. C'est la peur du communisme. Nous avons quand même vécu...
La guerre froide.
La menace fasciste et nazie avait disparu, mais c'était l'époque de Staline. Et l'expression de grand soir, même si on ne voyait pas dans le M. Jacques Duclos, M. Maurice Thorez, des révolutionnaires au couteau entre les dents... Mais moi, je peux vous dire que dans les milieux de des classes moyennes les plus inférieures, qui n'étaient pas le prolétariat, on avait la peur du communisme. Et après tout, le coup de Prague, qui est arrivé en 1947, aurait très bien pu, avec un autre parti communiste, dans un autre contexte, nous arriver aussi. Il y a eu une vraie peur du communisme. Et le communisme, à certains égards, faisait tout pour faire peur. Et ça a complètement disparu. On ne le regrette pas. Mais enfin, il y a effectivement des peurs collectives.
On est obligé d'aller vite. On va aborder notre culture. Vous m'annoncez un bilan réconfortant. Je m'attendais à ce que vous disiez « ça va pas du tout », mais vous dites quand même, somme toute, c'est un bilan réconfortant.
Oui, mais alors ça, nous sommes là au cœur, je dirais, de ma démarche. C'est le piège de la critique. C'est tellement plus facile de dire « rien ne va, c'était bien mieux avant », ou « c'est des imbéciles », etc. Et on a toujours... dans un domaine qui vous concerne de près, et chacun de vous peut en témoigner, on a des motifs d'insatisfaction, de déception, etc. Et je crois qu'il est au contraire plus stimulant et plus courageux, sans nier ou dissimuler en quoi que ce soit les motifs d'insatisfaction, de dire qu'il ne faut quand même pas oublier ce qui va bien. Dans le domaine culturel, il y a une chose que personne ne dit. Je prétends être le seul à le dire. C'est le moment 69. Le général de Gaulle part en 1969, après l'échec du référendum. Georges Pompidou et Malraux part avec lui, enfin en même temps. Pompidou est élu. Chaban devient Premier ministre. Imaginez qu'à l'époque, Pompidou et Chaban ont dit, bon, De Gaulle, c'était De Gaulle, Malraux, c'était Malraux. Il y avait un ministère des Affaires culturelles. Bon, fini de rire, c'est la fin de la récréation. Un bon secrétariat d'État aux arts et lettres, comme il y en avait sous la quatrième, ce serait bien suffisant. La droite aurait été ravie, car elle trouvait que Malraux faisait plutôt la politique de nos adversaires. La gauche, qui était sous le coup des événements de 68, n'aurait pas moufté. Et on serait arrivé avec d'excellents sénateurs qui auraient fait de la politique des beaux-arts. Tel n'est pas le choix de Georges Pompidou, qui avait rongé son frein pendant tout le temps où il était Premier ministre, où il avait comme seule obsession, et à juste titre, de moderniser économiquement la France, mais qui respectait le dialogue singulier entre De Gaulle et Malraux, qui parlait d'ailleurs de tout, sauf de politique culturelle, et encore moins de budget, il avait considéré que c'était ça le propre de le dialogue singulier. Mais lui, qui était un homme de culture, passionné d'art contemporain, de création, se disait, certainement, il ne m'avait pas fait la confidence, quand je serai président, je m'en occuperai. Et Chaban lui-même, qui était un des rares maires de France qui s'intéressa à la culture à l'époque, était évidemment tout à fait d'accord. Alors, dans un premier temps, et par prudence, ils ont nommé ministre un porteur d'un morceau de la vraie croix de Lorraine, en l'occurrence Edmond Michelet, qui est mort sans avoir fait grand-chose moins d'un an après. Et après, ils ont nommé un homme politique d'envergure, qui était Jacques Duhamel. Et plus jamais, depuis, le ministère de la culture et plus encore la politique culturelle n'ont été remises en cause. À travers les alternances politiques, la succession d'une quinzaine de ministres, il y a eu des priorités, un style différent, mais jamais on n'a remis en cause la politique culturelle. Dans son principe, et je pourrais vous dire, mais on n'a pas le temps dans le détail, que tout s'est fait dans la continuité.
Pourquoi Duhamel a-t-il tellement de difficultés à sentir que c'était un grand ministre de la culture ?
Parce qu'il n'est pas resté très longtemps.
Oui, dans le peu de temps où il est resté.
Mais il a fait énormément de choses. Ouais. Il y aura dans la prochaine publication du débat un article que je co-signe avec Olivier Duhamel, son fils, sur le ministère Duhamel et les leçons à en tirer.
Qu'est-ce que vous entendez par la déculturation qui règne ?
J'emploie le mot ?
Oui, oui. Des apostrophes et oui. Traits d'union, culturation.
Oui, enfin, disons que je dois viser par là le monde médiatique où l'on vit. Moi, je suis frappé d'un contraste entre le fait que, contrairement à ce que pensent les disciples ou ce que disent les disciples de Bourdieu, dont la thèse est la culture, c'est le lot c'est la chasse gardée de privilégiés, de gens qui ont de l'argent et des diplômes, le bon peuple reste à l'écart. C'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup de gens qui accèdent maintenant à la culture à travers les voies nouvelles. Mais il est vrai que le monde médiatique et les nouvelles technologies, qui par ailleurs peuvent être de formidables moyens d'accès à la connaissance et à la culture, sont dans leur référence, dans leur style, aussi peu cultureux que possible. Et la déculturation, c'est ça.
Et vous vous demandez si le niveau d'instruction a progressé ?
Ben, écoutez, si j'en juge par ce qu'on lit dans la presse sur le fait qu'on peut entrer en sixième, voire en sortir, sans savoir véritablement lire et écrire, et faire une phrase avec un sujet, un verbe et un complément, je crois qu'on peut avoir des doutes. Le baccalauréat, ma sœur aînée a été la première dans la famille à avoir son bac. Je ne dirais pas que c'est tout à fait l'agrégation d'aujourd'hui, mais ça avait un sens. Et ma mère avait, pour la première de toutes les générations précédentes, été jusqu'au brevet élémentaire. Le brevet élémentaire, qui ne doit plus exister d'ailleurs, et le baccalauréat, c'était de vrais diplômes. Maintenant, il y a beaucoup plus de bacheliers. Je ne suis pas sûr que le niveau, le bagage qui est le leur, soit équivalent au brevet élémentaire. Et je n'accuse pas le personnel enseignant qui a une tâche difficile, mais c'est vrai que dans... Alors, évidemment, là aussi, il y a un phénomène d'élite, en effet, en ce sens que si on est dans un bon lycée, si on fait une prépa à Henri IV ou à Louis le Grand, si on entre à Normale Sup ou à Polytechnique, tout va bien. Et ça n'est pas seulement des fils de bourgeois qui arrivent. On n'a pas attendu cette année ou l'année dernière pour avoir des systèmes de promotion sociale. Richard Descoings avait commencé à Sciences Po, et moi-même, je suis un exemple de cette promotion républicaine, bien que j'ai fait mes études dans l'enseignement libre. On pouvait entrer à l'ENA, alors que je n'aurais certainement jamais passé le concours du Conseil d'État d'avant la guerre. Mais ça s'est développé, donc il y a une véritable promotion sociale, mais le gros de la troupe me paraît avoir un niveau d'éducation inférieur à ce qu'était celui de ceux qui allaient, en tout cas, jusqu'au lycée.
Et alors, vous dites, attention quand même au niveau de la culture virtuelle qui est donnée actuellement au travers des ordinateurs qui facilitent notre vie.
Oui, mais alors, moi, je suis à 100% pour cette culture virtuelle. J'en vois bien tous les avantages. Mais rien ne remplace pour moi ce que j'appelle la culture réelle. Alors, je veux bien passer pour un vieux crocodile, mais je ne parviens pas à croire qu'on éprouve la même qualité d'attention, d'émotion et de mémorisation en voyant une cassette, en voyant sur cassette Le Misanthrope, ou en le voyant un soir à la télévision, dans les conditions de la télévision, et le fait d'assister à la Comédie française ou n'importe où, dans un théâtre, à ce spectacle. Le spectacle vivant, dans sa fragilité, dans son imperfection, mais vous avez des acteurs de chair et de sang, et un public qui se tait, qui est silencieux et qui entend la musique des vers de Racine ou de Molière pendant 2h30, ça vous marque à vie. Moi-même, j'ai eu la chance d'aller à la Comédie française avec ma sœur aînée à l'âge de 10 ans, en 1942. Donc ça fait presque 70 ans. Quand j'ai dit ça, en prenant la présidence de la Caisse des retraites de la Comédie française, je les ai un peu épatés en disant que je n'avais raté aucun spectacle de la Comédie française pratiquement depuis 1942. Mais ça m'a marqué à vie. Racine, le Phèdre de Racine avec Marie-Belle et Marie Marquet, ou Louis Seignet, ou Aimé Clarion dans l'École des femmes, ça m'a marqué à vie. Et les concerts, la même chose. Je disais à une radio tout à l'heure que j'ai emmené mon petit-fils qui a maintenant 20 ans. Il avait 5 ans, je l'ai amené au Châtelet pour le concert du dimanche matin réservé aux jeunes qui donnait deux des œuvres du programme de l'Orchestre de Paris donné à Pleyel le mercredi. Il y avait l'ouverture d'Egmont et la 8e symphonie de Bruckner. Et en consultant le programme, parce que je ne connais pas la symphonie de Bruckner par cœur, je dis à mon petit-fils, une symphonie, il y a des mouvements, c'est comme des chapitres, alors on n'applaudit pas entre les... Et tu verras, le 3e et le 4e mouvement sont enchaînés, c'est-à-dire collés l'un à l'autre. Et au moment précis où le chef a marqué le passage du 3e au 4e mouvement, le gosse m'a tiré par la manche en me disant « on passe au 4e ». Alors, il n'est pas spécialement doué, mais je suis persuadé que je lui aurais fait entendre le disque dans ma chambre ou mon bureau en lui donnant les mêmes explications, il n'aurait pas réagi comme ça. Parce que c'est quelque chose qui lui arrivait, que je lui avais annoncé qui lui arrivait. C'est ça, le spectacle vivant. Et ça, ce n'est pas la culture virtuelle.
Alors, vous avez un autre chapitre sur notre état. Alors... Je vous dis, un culte raisonneur qui ne nous a jamais empêchés de critiquer ses lourdeurs et son coût, le train de vie de l'État, toujours jugé excessif, mais qui illustre à sa façon bougonne l'importance de l'esprit public attaché à la présence de l'État et à sa permanence. Donc, ça va bien, hein ? L'accumulation des lois, la multiplication des grenelles, Ça vous énerve, ça.
Oui, j'ai déjà parlé de l'État qui, en France, a une importance particulière. L'État va mal, actuellement. Nous avons un président de la République qui a un certain génie politique, mais qui est complètement dépourvu de culture d'État. Il ne sait pas ce que c'est que l'État. Il n'en est pas familier. Et la manière dont il traite ses ministres, dont il traite les grands corps de l'État, je pense à l'armée, à la police, au corps préfectoral qu'il a humilié, m'inquiète beaucoup. L'État est nécessaire partout. On s'en rend compte dans tous les pays avec des difficultés économiques. Il y a un recours à l'État. L'État en France, c'est un manque de moyens. Il y a une révision générale des politiques publiques qui est conçue en termes exclusivement comptables. Les grands centres de l'État sont assez démoralisés. Voilà.
On va passer à la politique, peut-être, ou vous voulez encore nous parler du mécénat. Ça a été quand même une partie de...
Oui, mais on va peut-être terminer par là, parce que je ne veux pas vous abuser de votre patience.
Oui, de 19h15.
Et extraordinaire de patience. Le mécénat, si je fais le bilan de ma vie, c'est peut-être une des choses dont je suis le plus fier. Au moment où j'allais moi-même devenir chef d'entreprise, deux jeunes gens sont venus me voir, c'était en 79, en me disant « Dans votre livre « La culture pour vivre », vous dites que la politique culturelle crée des besoins et des aspirations que l'État ne suffira jamais à satisfaire et que d'ailleurs il ne serait pas sain que tout relève de l'État ». Et vous en appeliez au développement du mécénat, dont vous regrettiez que, à part le mécénat des grandes fortunes, il n'y ait pas de mécénat en France, et notamment de la part des entreprises. Et ils me disent, on voudrait développer le mécénat d'entreprise. J'ai essayé de les décourager, j'y suis pas parvenu, et du coup, ils m'ont demandé de présider leur association. Et je me suis lancé là-dedans. Au moment même où je devenais moi-même chef d'entreprise. Et le mécénat s'est développé. Nous avons convaincu l'État de lui donner un régime juridique et fiscal approprié. Il s'est développé dans des domaines autres que la culture aussi, la solidarité, l'environnement, la recherche. Et je me rends compte qu'à travers cette initiative, si nous ne l'avions pas prise, d'autres l'auraient prise. parce que l'idée était dans l'air, mais c'est abouti à un véritable changement de société. En ce sens que on vivait en France sur l'idée qu'il y avait l'intérêt général, dont l'État était chargé, et le reste, c'était les intérêts particuliers que l'État arbitrait. Les intérêts particuliers ayant quelque chose d'un peu suspect. Moi, j'ai pensé qu'il y avait une notion qui dominait tout ça, qui est une notion héritée de saint Thomas d'Aquin, qui est le bien commun. À partir du moment où vous, moi, nous pensons non pas à l'intérêt général, où on peut se dire, c'est à l'État de le définir, mais qu'est-ce que le bien commun ? Nous nous rendons compte que c'est l'affaire de tous. Et qu'une entreprise qui ne peut en aucun cas, contrairement à ce qu'on dit souvent, et on le dit aux États-Unis, mais ça c'est différent, ne peut être philanthrope. Une entreprise ne peut pas être philanthrope. Moi j'étais mandataire social, les fonds qui m'étaient confiés par les actionnaires, je devais pouvoir prouver que je l'utilisais dans l'intérêt bien compris de l'entreprise, sinon c'est de l'abus de biens sociaux. Donc pas de philanthropie. En revanche, j'ai cherché à faire comprendre aux entreprises que se mettre au service du bien commun, soutenir sans contrepartie, contrairement au parrainage, une initiative culturelle ou en faveur des handicapés, des personnes âgées, était dans l'intérêt bien compris de l'entreprise. Parce que ça améliore son image, qu'elle apparaît là où on ne l'attend pas, qu'elle s'associe à des événements gratifiants ou prestigieux, que d'autre part, si le mécénat n'est pas simplement une main tendue et un chèque qu'on met dedans, mais un partenariat, elle met l'entreprise en contact avec des créateurs, des artistes, des opérateurs culturels, des médiateurs sociaux, des médecins, des chercheurs qui ont un autre langage, d'autres références, d'autres méthodes, et que l'entreprise leur apporte un peu de sa rationalité et eux un peu de leur folie. Et d'autre part, le mécénat renforce et nourrit le sentiment d'appartenance du personnel à l'entreprise. Donc c'est une bonne affaire. Et en même temps, c'est au service du bien commun. Eh bien, le fait que maintenant 2 milliards d'euros soient consacrés par les entreprises au mécénat d'entreprises dans tous les domaines, que des dizaines de milliers d'entreprises, y compris les PME, si vous, que les entreprises aient compris que même en période de basses eaux ou de difficultés économiques, on peut réduire le montant du mécénat, mais surtout pas l'arrêter, parce que c'est une action qui se situe nécessairement dans le long terme. Je crois que nous avons... Le mécénat n'est pas là pour faire les fins de mois d'un État nécessiteux, je l'ai dit 100 fois, mais ça a été un élément de liberté et de créativité dans la société.
Vous verrez, il y a encore de magnifiques pages sur la descendance, très, très belles et lucides, de même sur nos amitiés. Vous dites d'ailleurs de toutes les relations qui se nouent entre les êtres, l'amitié est de loin la plus libre. Et comme nous sommes maintenant, le temps gagne sur nous. J'aimerais bien que vous nous donniez votre conclusion que nous pouvons emporter chez nous.
Bon, le dernier chapitre est consacré à nos fins dernières. Je n'ai pas le temps de développer. Je suis croyant, mauvais pratiquant, mais je me réclame de l'Église catholique romaine. Le mystère qui me hante le plus dans cette religion chrétienne, c'est le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que, d'après ce que nous croyons, Dieu le Père a envoyé son Fils assumer la condition humaine. Mais, alors, on pourrait en discuter à l'infini, mais ce qui me fascine, et je pense que des théologiens ou des philosophes ont réfléchi là-dessus, c'est à partir du moment où, dans l'hypothèse où je me place, Dieu a décidé d'intervenir dans l'histoire humaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans d'autres planètes. Il a choisi ce moment où Rome étendait son empire sur tout le bassin méditerranéen. S'il l'avait fait 2 siècles avant, ou dans les Dark Ages, comme disaient les anglo-saxons du haut Moyen-Âge, il n'est pas sûr. Mais là, il y a une possibilité de, que ce message et ce salut offert aux Juifs, mais, d'après ce que nous croyons, à l'humanité tout entière, a pu se propager. Je trouve ça absolument fascinant. Non, ma conclusion, je n'ai pas de conclusion, c'est un livre qui par définition, n'a pas de conclusion. C'est un regard sur la vie. Je crois que ce que nous avons, nous ne devons pas hésiter à témoigner devant les plus jeunes qui s'en foutent de ce que nous avons vécu, leur rappeler les progrès dont nous avons été les témoins et les bénéficiaires, et qui nous ont fait d'abord encore vivants, encore debout, pas complètement sauvages, peut-être même assez civilisés, et ayant en plus envie de transmettre des valeurs auxquelles nous croyons à ceux qui nous suivent. C'est notre manière d'être encore utile. Et qu'ils puissent avoir eux-mêmes, vis-à-vis des plus jeunes, la même ambition, la même confiance, et que, comme nous, ils essayent non pas d'être chagrins, mais d'être sensibles à ce qu'encore une fois, saint Matthieu appelle les signes des temps. Donc, nourrir l'espérance, je crois que c'est ce qui peut être le plus recommandable.
Eh bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle rentrée chez vous et merci à tous.
Merci de votre patience.